Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. En ce moment, j'ai à cœur vraiment de parler du Saint-Esprit. Vous l'avez remarqué, je crois qu'on ne peut pas se lasser de parler du Saint-Esprit et de la façon d'agir du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 9, nous voyons justement quelque chose que fait le Saint-Esprit, dans l'Église en plus. Donc ça, vraiment, ça nous concerne. Alors c'était bien sûr les églises de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, mais ces principes qui sont là, spirituels, sont encore vrais aujourd'hui. Acte 9, 31, il nous est dit, l'église était en paix, justement, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Quand on se pose la question, est-ce qu'on veut que notre Église soit en paix? Automatiquement, tout le monde va dire oui, bien sûr. Est-ce qu'on veut s'édifier? Est-ce qu'on veut se fortifier? Est-ce qu'on veut marcher dans la crainte du Seigneur? Est-ce qu'on veut croître en tant qu'Église? Oui. Mais il n'est bien indiqué que cela n'est possible que par l'assistance du Saint-Esprit. Sans l'assistance du Saint-Esprit, l'Église ne peut pas prospérer. Et il faut bien comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Souvent, on se trompe. La puissance survenant sur nous, c'est la présence de la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est une personne qui nous influence. Mais c'est quelque chose que de comprendre que nous avons besoin de l'assistance de la troisième personne de la Trinité, Dieu en nous. Dieu nous fait la grâce de mettre son esprit en nous par la foi. C'est quand même merveilleux. C'est quand même quelque chose, un programme extraordinaire. Un président qui me dit ça comme programme, je vote pour lui. Bien sûr, ils vont jamais parler de ça, parce qu'ils sont dans d'autres domaines. Mais je vote pour Jésus comme le président de mon cœur. Là, il n'y a pas de souci, parce que son esprit en nous, c'est quelque chose de merveilleux. Comment maintenant le Saint-Esprit s'y prend pour nous assister? Je le disais la semaine dernière et je suis persuadé que c'est quelque chose qui trompe, qui illusionne les gens, la façon dont on appréhende le Saint-Esprit. On a plein d'idées reçues, on a plein de clichés sur le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il faut absolument qu'il y ait de l'excitation, il faut absolument qu'il y ait des miracles en pagaille. Et oui, bien sûr que le Saint-Esprit guérit et fait des belles choses. Mais souvent, on occulte ce qu'il fait continuellement, en fait. Dans 2 Corinthiens maintenant, chapitre 13, verset 13, il est précisé, ça fait un partie des versets qui parlent de la Trinité, sans prononcer le mot, mais qui parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes bien différentes. 2 Corinthiens 13, 13, c'est tout à la fin du livre de 2 Corinthiens. C'est la dernière salutation de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et regardez les mots qui sont associés à chaque personne de la Trinité, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion, certains ont la communication, mais je préfère la traduction, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous aimez la grâce de Dieu, on l'a chanté encore tout à l'heure, grâce infinie. Vous aimez l'amour de Dieu, bien sûr. Est-ce que vous aimez la communion du Saint-Esprit? Parce que c'est au travers de la communion du Saint-Esprit que Dieu nous assiste afin que notre Église soit dans la paix, marche dans la crainte, s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire par cette communion vivante et continuelle que nous avons avec la personne du Saint-Esprit. Quand nous nous repentons, quand nous recevons le pardon de Dieu à la croix, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. À ce moment-là, la nouvelle naissance, on est ouvert aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est plongé totalement dans les choses spirituelles. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais déjà quand même, la nouvelle naissance, le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, et nous permettre d'avoir une communion avec Dieu, c'est quelque chose de remarquable. Il vit en nous. Il nous parle. Il nous enseigne. Il nous conduit. Il nous dirige. Tout cela, bien sûr, si on le veut, hein, si on l'accepte. Il ne nous force pas, mais il nous propose toutes ces façons d'agir. Donc, la communion du Saint-Esprit, c'est la façon dont le Saint-Esprit nous assiste. Voilà pourquoi c'est très important de faire attention à notre communion avec le Saint-Esprit et par la même occasion avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Puisque nous sommes en communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Maintenant, voyons une façon dont la communion du Saint-Esprit s'exprime. Dans Luc, c'est Jésus qui va nous montrer cet exemple-là. Luc chapitre 10, verset 21. Ce matin, je voudrais vraiment aller en profondeur. Pas juste survoler certains principes, mais aller en profondeur de la communion avec le Saint-Esprit. Parfois, on a une image un peu simpliste en disant « Oui, j'ai été pardonné, je suis en communion avec Dieu, donc je vis ma vie tous les jours, mais je sais qu'il y a un lien quelque part. » Non, 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 c'est beaucoup plus sérieux et profond que ça. Nous devons faire attention à notre communion avec le Saint-Esprit. Luc 10, verset 21. « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Vous avez remarqué, quand on lit les évangiles, on ne voit pas un Jésus continuellement dans une succession d'émotions très fortes. Il y a des moments où il a pleuré, il y a des moments où il est attristé, il y a des moments clés comme ça, mais de manière générale, c'est Jésus, il est quelqu'un de très paisible. Mais là, il est souligné le fait, et je crois que c'est important qu'on le souligne aussi ce matin, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il y a une joie surnaturel qui a commencé à saisir le cœur de Jésus. Pourtant c'est Jésus, pourtant c'est le Messie, c'est celui qui vient d'en haut, qui connaît ce qui se passe en haut et qui annonce cela sur la terre. Mais il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la foi, elle ne se trouve pas avec le cerveau humain. Je résume la pensée. Ce n'est pas les sages et les intelligents de ce monde qui connaissent beaucoup de choses sur la foi. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse être sage et intelligent, mais on a besoin surtout d'être sage et intelligent selon le Saint-Esprit. Et Jésus est dans l'admiration de dire que même les enfants, dans le contexte en plus il va accueillir les petits-enfants auprès de lui, même les enfants peuvent comprendre ce que c'est que la foi, ce que c'est que d'être en communion avec Jésus. C'est merveilleux. Pour l'avoir expérimenté enfant, je peux vous dire que c'est vrai. Même quand on est enfant, sans tout comprendre de la Bible, parce qu'il y a quand même des choses compliquées. J'ai pas compris l'Apocalypse, ça fait pas longtemps que je l'ai compris, ça fait quelques années. Quand j'étais enfant, je ne comprenais rien. Mais par contre, j'avais compris qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qu'il y avait un Sauveur qui avait donné sa vie pour moi et qu'il voulait que le Saint-Esprit habite en moi. Ça, c'est une réalité. Et Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui font tressaillir de joie le Saint-Esprit en nous. Il y a des choses qui plaisent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Ce qui réjouit le Saint-Esprit ». Il y a des choses, des attitudes, des façons de penser qui réjouissent le Saint-Esprit et qui font que Dieu va mettre sa faveur sur quelqu'un qui fait ces attitudes-là, qui veille sur ces attitudes. Mais de la même manière que la communion du Saint-Esprit s'exprime par la joie, la communion du Saint-Esprit s'exprime aussi par la tristesse. Et on doit apprendre à discerner. Voilà pourquoi nous allons maintenant lire et rester sur ce passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est le verset vraiment qui m'a bloqué, dans le bon sens du terme, sur lequel je suis resté bloqué, à méditer, à réfléchir. Éphésiens 4, verset 30, c'est presque l'inverse de ce qu'on vient de lire. Parfois, c'est une joie dans notre cœur du Saint-Esprit qui nous montre qu'on est sur la bonne route et on ne peut pas douter que Jésus était parfaitement dans la volonté de Dieu. Pour nous, c'est une autre histoire. Mais parfois, on a besoin de prêter attention à la tristesse. du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une exhortation vibrante de l'apôtre Paul envers les Éphésiens. Et en plus, il y a des exemples concrets qui sont donnés. Comment est-ce que je peux attrister le Saint-Esprit? Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on sait ce qui attriste le Saint-Esprit et qu'on fait tout pour l'abandonner, ne pas le faire, nous en dépouiller, on va réjouir forcément le Saint-Esprit. Quand on fait l'inverse, eh bien, on va pouvoir marcher de progrès en progrès, et par l'assistance du Saint-Esprit, croître personnellement. Et notre Église, remplie de personnes qui font cela, va pouvoir aussi croître et grandir spirituellement par la grâce de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous avons été marqués. Scellés, ça veut dire littéralement marqués par le sceau de Dieu. Ça veut dire que Dieu met sur nous une marque, c'est pas la marque de la bête, bien au contraire, c'est la marque du Saint-Esprit qui atteste que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons, comme à l'époque il mettait des sceaux pour attester de la royauté de la lettre, vous savez, le sceau qui valide, qui vient sceller la lettre, et nous avons été scellés par le Saint-Esprit le jour de notre conversion. Et nous savons que quand le Seigneur va revenir, quand il va trouver le sceau du Saint-Esprit dans notre cœur, parce que nous avons veillé à notre communion, parce que nous avons fait ce qui plaît au Saint-Esprit, il va nous prendre avec lui. Le jour de la rédemption. Potentiellement, nous sommes rachetés, d'accord ? Spirituellement, nous sommes rachetés. Mais quand Jésus va venir et qu'il va nous trouver veillant et priant et l'attendant, nous allons vivre le jour du rachat, véritablement. Mais un des moyens que le Saint-Esprit utilise pour être en communion avec nous, c'est par la tristesse. C'est très important d'être soucieux de dire, est-ce que dans mon cœur, le Saint-Esprit sourit ou est-ce qu'il a les yeux pleins de larmes? De s'arrêter dans nos vies, de se poser les questions. Et pas de dire, oui, j'ai cru un jour au Seigneur, j'ai cru à la croix, donc maintenant tout va bien, tout est parfait. Mais vous savez comment on est, hein? On a besoin de s'arrêter et de regarder, et d'entendre, et de demander, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Père éternel, dis-moi, est-ce que je suis dans ta faveur, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'espère qu'en prenant le pain et le vin, c'est ce que vous faites. Normalement, c'est ce qu'on est censé faire. C'est pas quelque chose de coutumier, mais c'est un moment où justement on dit, est-ce que le Saint-Esprit sourit dans ma vie? Et c'est un moment où je suis reconnaissant pour la croix, ou alors c'est un moment où je sens que le Saint-Esprit est attristé et je me repens et je demande pardon et je réalise justement la croix comme tout à nouveau. Et il y a la joie du Saint-Esprit qui revient en moi. Mais c'est important de connaître ce qui réjouit le Saint-Esprit et ce qui attriste le Saint-Esprit. Dans Ésaïe, je le lis pour vous, un verset qui parle justement, un autre verset qui parle du fait d'attrister l'Esprit-Saint, c'est terrible. C'est parle du peuple d'Israël. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Vous voulez que Dieu combatte contre vous, qu'il soit votre ennemi? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, personne ne veut ça. Tout le monde veut que Dieu soit dans son côté. Oui, mais alors n'attristons pas le Saint-Esprit. Au contraire, cherchons à faire ce qui plaît au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses qui sont abordées, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je souligne juste, il est question de mensonge, il est question de colère, il est question de vol, il est question de mauvaises paroles, d'animosité, calomnie, etc., amertume, ça fait beaucoup de choses qui sont très clairement explicitées pour dire que ça attriste le Saint-Esprit. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur le verset 17 à 19. Et voir qu'il y a là certaines choses moins évidentes peut-être à discerner, mais qui attristent le Saint-Esprit. Et voir le pendant à chaque fois. Il y a des choses qui attristent, mais il y a des choses qui réjouissent le Saint-Esprit dans nos cœurs. Éphésiens 4, 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Remarquez juste la façon dont Paul dit les choses. Il va déclarer quelque chose d'important. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Oula, qu'est-ce qu'il va dire ? Accrochons-nous à nos chaises. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On s'arrête là. Et maintenant, quelques versets plus loin, on a cette parole. N'attristez pas le Saint-Esprit. Sous-entendu que Paul est en train de dire, voilà ce que vous faisiez quand vous étiez des païens. Maintenant, ne le faites plus. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne marchez plus dans ces façons de faire-là qui attristent le cœur de Dieu et qui font que la faveur de Dieu, pendant quelque temps, reste suspendue au-dessus de votre vie, alors que Dieu voudrait la manifester. On est tous d'accord, on veut la grâce de Dieu, on veut grandir, on veut être édifié par la foi, mais cela n'est possible qu'en veillant. Ne marchez pas comme les païens. Qu'est-ce qu'il est dit des païens ? Qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ne marchez pas, c'est pas le fait de marcher, hein, on a le droit de faire des kilomètres. Il y en a qui le font pour la santé, c'est très bien. Mais c'est le fait de se conduire dans ses façons de faire. Et vous allez me dire, mais oui, mais là, il est question des païens, c'est une description des païens. Oui, mais remarquez, parce que vous êtes des chrétiens, ne marchez plus comme les païens que vous étiez, en fait. C'est ça qui est dit. Et il y a la description qui est faite qui, en fait, concerne d'abord les chrétiens. Les païens, s'ils ne sont pas encore venus à la connaissance de la vérité, le Seigneur va se révéler à un moment donné. Mais là, c'est à nous que ces choses sont dites et c'est à nous de réfléchir. Marcher selon la vanité des pensées, selon les choses vaines de ce monde. Littéralement, le mot « vain » veut dire « dépourvu de force », « dépourvu de vérité », « sans résultat », « inutile », « sans but ». Est-ce que nous trouvons dans ce monde des choses qui correspondent à cette description ? Mais il y a beaucoup de choses qui correspondent aux choses vaines. Bien sûr, c'est vain dans le sens spirituel. Il y a plein de choses à faire sur la terre. Mais est-ce que ce sont des choses utiles dans le royaume de Dieu ? Le païen va marcher dans les choses vaines sans se poser la question. Mais le Saint-Esprit en nous dit, les choses vaines, c'est une chose, mais il faut mettre les choses de Dieu en premier. Marcher selon les choses vaines, c'est se laisser avoir par le train de ce monde, se laisser piéger par les affaires de la terre. Vous savez, comme la parabole des terrains, où il y a les soucis du monde qui viennent étouffer la semence, ça c'est marcher selon la vanité des pensées. Paul, aux habitants de Lystre, va leur dire de renoncer à la vanité des idoles. Il est en train de faire un miracle. Les gens viennent et ils croient que ce sont des dieux et ils veulent leur faire des sacrifices. Et Paul leur prêche en leur disant « Mais non, ce que vous faites là, c'est vain, ça sert à rien. Vous offrez un sacrifice, déjà je suis qu'un homme, je suis qu'un serviteur de Dieu, mais en plus, ce que vous faites, ça sert à rien. Vous êtes en train de perdre du temps dans des choses futiles. » On pourrait parler, au lieu de vanité, de futilité. Ce sont des choses qu'on peut faire, mais qui, aux yeux de Dieu, ne servent à rien. Et quand on est dans ce piège-là, on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire ce qu'il veut dans notre cœur, dans notre vie. Jacques va parler de la religion vaine d'un homme. Vous savez ce que c'est ? Il croit, quelqu'un qui croit être religieux, mais qui ne sait pas tenir sa langue. Quelqu'un qui parle dans tous les sens. Quelqu'un qui s'agite, qui est capable de critiquer et puis en même temps d'aller à l'église et de chanter « Alléluia, je suis dans la joie avec mes frères et sœurs » et après je les critique quand je sors. Ça fait pas partie du chant. Ça, c'est la religion vaine. Et quand on fait ça, bien sûr, on attriste le Saint-Esprit. Et on voit que chaque apôtre a donné un petit peu sa pensée. Pierre va dire, par contre, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang du Christ. Il y a des choses qui sont vaines dans ce monde, mais le sang de Christ nous a libérés de cela. Et quand nous marchons dans la réalité de ce que ça a coûté à Jésus pour que nous soyons libérés de la vanité, ben on a envie de marcher selon les choses qui lui plaisent, les choses qui sont les œuvres de Dieu. Travailler non pour la nourriture qui périt, les choses de la terre qui sont passagères, mais pour celles qui subsistent, les richesses qui subsistent dans le ciel. Et c'est très intéressant de réfléchir en disant, ce que je fais, est-ce que ça va avoir un impact dans le ciel ou est-ce que ça c'est que sur la terre? Quand je me pose cette question, ben en fait c'est le Saint-Esprit qui m'aide, qui m'assiste pour me dire recentre-toi sur les choses importantes. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est de marcher dans la vanité des pensées, mais ce qui réjouit le Saint-Esprit, c'est de marcher dans la vérité de la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu nous montrer le chemin, ce que nous devons faire, ce qui a de l'importance, ce qui est capital, ce qui est prioritaire. Le monde va vous dire que certaines choses sont prioritaires, on ne peut pas passer à côté. Si vous écoutez aujourd'hui les ados, ils vont vous dire « mon téléphone, c'est la priorité dans ma vie ». Franchement, dans le contexte, on peut le comprendre, mais est-ce que quand on met ça face à l'éternité ? Bien sûr que non. Oui, alors, j'ai pris les ados, mais ça, chacun a ses choses qui pensent que c'est prioritaire. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce qui n'est pas vain, sur ce qui est utile? Dans la parabole des talents, vous savez qu'il y en a un qui a enterré son talent, tandis que les autres ont fait fructifier ce que Dieu avait confié, ces richesses que Dieu avait confiées. Et Dieu va leur dire à ceux-là, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Et l'autre serviteur, inutile et paresseux. Qu'est-ce que vous préférez entendre? Oh là là, Seigneur, je veux être un serviteur fidèle parce que je me suis concentré sur les richesses que toi tu me donnes et pas celles que j'ai envie d'avoir. Les richesses spirituelles, les richesses de la foi. On avance. Il est question dans ce verset de ceux qui ont l'intelligence, au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Avoir l'intelligence obscurcie attriste le Saint-Esprit. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui a eu l'intelligence enténébrée. C'est intéressant parce que quand on vient au Seigneur, le Saint-Esprit éclaire notre esprit et nous permet de comprendre, éclaire notre intelligence, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous comprenions ce qui se passe, l'amour de Dieu, la croix, notre péché, tout ça, ça nous est expliqué. Mais parce qu'on fait des mauvais choix, parce qu'on n'est pas attentif, parfois on laisse notre intelligence s'enténébrer. Comment est-ce qu'on a l'intelligence obscurcie? Regardez dans Romains. C'est intéressant de voir dans la parole de Dieu, il y a des expressions qui reviennent. Romains chapitre 1, verset 21, même si là il est question des Juifs, mais c'est intéressant dans le parallèle que l'on fait. Parce que ce sont des personnes qui pensent qu'ils ont la connaissance, ils pensent qu'ils ont l'intelligence. Et un chrétien qui est passé par la repentance peut croire cela, mais il peut s'être fait piéger, c'est bien noté dans ce verset. Romains 1, 21, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, donc c'est des gens qui ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comment est-ce qu'un cœur est plongé dans les ténèbres quand on ne rend pas la gloire à Dieu? C'est un peu ce qu'on vient de partager sur la vanité. Et puis, quand on n'est pas reconnaissant. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Est-ce que vous rendez grâce à votre Seigneur? Est-ce que vous vous efforcez tous les jours de rendre grâce? Tous les jours de dire, Seigneur, merci, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela. Je sais que c'est ta grâce, Seigneur, merci, merci. J'ai la santé, ou j'ai traversé la maladie et tu m'as relevé. Seigneur, merci, je suis reconnaissant. Quelqu'un qui perdure dans la reconnaissance de manière continuelle, il réjouit le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui, au contraire, n'est pas reconnaissant, ne rend pas grâce et s'occupe des futilités, il attriste le Saint-Esprit et son cœur est plongé dans l'obscurité. Si la lumière qui est en nous est ténèbre, va dire Jésus, combien vont être épaisses ces ténèbres? Mais Jésus veut mettre sa lumière dans notre cœur. Et quand nous partageons la parole, comme nous le faisons ce matin, ou quand nous le faisons personnellement, la lumière du Seigneur est en train de briller. Nous pouvons laisser la lumière du Seigneur briller et nous montrer qu'on s'est laissé piéger par ceci ou cela. Il y avait un chrétien, un des principaux membres de son église, c'est un pasteur qui rapporte ça il y a quelques siècles en arrière, il lui demandait à ce pasteur ce qu'il pensait de son cas. Donc il a commencé à discuter avec lui. Il disait « Ça fait des semaines que je prie pour recevoir le Saint-Esprit, mais je n'en ai retiré aucun bienfait. Des semaines que je prie tous les jours pour que le Saint-Esprit me visite, et il n'y a rien qui se passe, je suis de plus en plus triste. » Donc le pasteur lui dit « Mais c'est quoi le motif de votre prière? Pourquoi vous voulez être rempli du Saint-Esprit ?» Très intéressant les motifs. « Ben c'est pour être heureux. » Parce que j'ai vu que quand les gens ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont heureux. Donc je veux être heureux. C'est bien de vouloir être heureux. Mais le pasteur, conduit par le Saint-Esprit lui-même, il va dire, mais vous savez, le diable, il pourrait prier de cette manière-là. Parce que rechercher la joie pour la joie elle-même, c'est de l'égoïsme. Et ce que vous demandez, c'est pas la bonne façon de le faire. Un chrétien devrait demander le Saint-Esprit afin de devenir plus utile dans son royaume, afin de pouvoir glorifier Dieu davantage. Il y a un psaume qui parle de David qui demandait un esprit de bonne volonté afin qu'il puisse enseigner les transgresseurs et convertir les pécheurs. Ça, c'est quand même un autre niveau. Et cet homme, au début, il est parti furieux. Furieux parce que le pasteur, il lui a dit la vérité qu'il devait entendre. Peut-être qu'il n'a pas pris assez de gants, je ne sais pas. Mais en tout cas, la fureur s'est transformée en profonde réflexion, jusqu'à devenir une profonde repentance. Cet homme s'est aperçu que toutes les semaines où il s'est mis à prier, il était totalement à côté de la plaque. Il était centré sur lui au lieu d'être centré sur Dieu. Il avait l'intelligence obscurcie et c'est grâce à des paroles de sagesse conduites par le Saint-Esprit d'un homme de Dieu qu'il a pu commencer à ouvrir les yeux, jusqu'à ce qu'il se rende compte de son état, qu'il se repente, et à ce moment-là, il a été rempli du Saint-Esprit. L'intelligence obscurcie attriste le Saint-Esprit. Mais quand on accepte de se soumettre, quand on accepte de marcher dans la lumière de la parole de Dieu, là, on réjouit le cœur de Dieu. Ce matin, je ne sais pas où c'est que vous en êtes. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. Ils agissent l'un et l'autre conjointement pour nous conduire aux pieds de Jésus. Et c'est à nous de dire oui. Mais on a toujours la liberté de dire non. Mais si on dit oui, on réjouit le cœur de Dieu, on réjouit le Saint-Esprit en nous. Et le Seigneur ouvre notre intelligence. Voilà pourquoi Paul va dire, « Seigneur, je te prie que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils comprennent quelle est l'espérance. » Vous êtes dans l'espérance ce matin? Quand vous considérez le monde, vous êtes dans l'espérance? C'est dur d'avoir de l'espérance quand on regarde ce qui se passe. Mais on a le regard qui se tourne vers le ciel, vers le Seigneur. Et là, on est plein d'espérance. Oui, il y a des tracas et ça va aller de pire en pire sur la terre. On est prévenu, on le sait à l'avance, donc à la limite, c'est presque normal. Mais on est soucieux, bien sûr, ça nous touche le malheur de ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons l'intelligence illuminée, le cœur illuminé par le Saint-Esprit qui nous permet de voir tout le programme qui se prépare dans le ciel. Oui, il va y avoir des temps encore plus durs, la grande tribulation. Oui, il va y avoir des moments très difficiles où les chrétiens qui auront été entre deux chaises vont rester sur la terre pendant que les autres qui ont une piété véritable vont être enlevés. Ça sera terrible. Combien je veux pas faire partie de cela? Moi, je veux être en haut avec le Seigneur. Voilà pourquoi je veux être prêt. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'assiste pour que cela puisse se passer. Quelle grâce! La communion du Saint-Esprit, qu'elle soit avec nous. Est-ce que vous désirez la communion du Saint-Esprit? Je crois que c'est ce que l'on désire vraiment. de la part du Seigneur. Regardez la suite encore, non. On revient dans Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le verset 18. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, je le sais, ce matin, j'aborde des notions qui sont pas plaisantes à entendre forcément. Mais il faut vraiment, quand on aime le Seigneur, quand on aime le Saint-Esprit, on sait que quand on est prévenu sur les choses difficiles, c'est que derrière, il y a des choses merveilleuses, il y a des promesses. Justement, il nous est parlé là de l'endurcissement du cœur. Quand on entend cette expression, ça fait trembler. C'est quelqu'un, quand je pense à l'endurcissement, je pense à Pharaon, qui a combien de fois a entendu Moïse venir de la part de Dieu lui parler, poussé par le Saint-Esprit. Avec Aaron, ils étaient là. Non seulement il y avait la parole, mais il y avait la puissance du Saint-Esprit, les miracles, les signes qui les ont accompagnés. Et malgré tout ça, il a choisi de fermer son cœur à chaque fois. Ça, c'est l'image de l'endurcissement, vous avez un exemple là. Et on sait que ça s'est mal fini. Pensez qu'il a perdu son fils premier-né. Il a perdu toute son armée. On ne sait pas s'il y était, lui. Mais en tout cas, il y a eu une catastrophe pour le pays d'Égypte parce qu'un homme s'est endurci. C'est terrible quand on s'endurcit. C'est terrible quand on a connu la foi, mais que l'on s'endurcit. Et que petit à petit, il y a une carapace qui est en train de se construire autour de notre cœur. Comment est-ce qu'on fait pour endurcir son cœur? Je l'ai dit, quand on résiste à ce qui est annoncé. Mais on a parlé tout à l'heure de la rébellion. Ils ont été rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit. Et il a combattu contre eux. Dieu est devenu leur ennemi. Quand on est dans la rébellion, par rapport à la parole de Dieu, et vous savez, c'est pas forcément la rébellion d'aller dans la rue protester, hein, lever le poing, c'est pas cela dont il est question. C'est la rébellion contre les choses de Dieu. Parfois, on est assis sur notre chaise, on écoute, mais dans notre cœur, on dit « moi, c'est pas question ». La parole de Dieu dit ça, mais moi, je pense autrement. C'est de la rébellion, et ça attriste le Saint-Esprit. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose de gros, mais parfois c'est des petites pensées où on dit « est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est en train d'être dit ? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Frères et sœurs, moi je ne fais que commenter la parole de Dieu, vous avez bien vu, je ne rajoute pas des doctrines, je ne fais qu'expliciter ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur, et c'est pour ça que nous devons prêter attention. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui endurcissent leur cœur, ça attriste le Saint-Esprit. « Oh Seigneur, je ne veux pas endurcir mon cœur, je veux assouplir mon cœur, je veux avoir ce cœur de chair. » Ce cœur qui est tendre, dès que le Seigneur touche à peine, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que je désire, Seigneur. Je désire que vraiment tu puisses m'aider à me soumettre. Alors, oui, vous voyez, j'ai mal dit les choses, parce que le Seigneur ne va pas nous aider à nous soumettre. À un moment donné, il nous dit « soumettez-vous ». Et si on ne se soumet pas, ben on résiste. Et on endurcit son cœur. Il y a des fois où on se trompe dans nos prières. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire attention. Seigneur, aide-moi à me soumettre. Non, soumets-toi, mon frère. Soumets-toi, ma sœur. Fais ce que le Seigneur te demande. C'est à nous de le faire. Dieu, il a fait sa part et il va continuer à nous assister, à nous aider, à mettre tout le contexte, tout ce qu'il faut autour de nous pour qu'on se soumette. Maintenant, à un moment donné, c'est nous qui décidons oui ou non. Et oui, nous plaisons au Saint-Esprit ou non, nous l'attristons. Ce qui réjouit le cœur du Saint-Esprit, ce qui réjouit et qui favorise la communion du Saint-Esprit en nous, c'est de marcher dans cette soumission. Et je termine avec cette dernière expression dans le verset 19. « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, etc. » ou à l'impureté. Mais juste à cette expression, « ayant perdu tout sentiment ». Littéralement, j'ai trouvé ça très très intéressant. Littéralement, c'est étant devenu insensible. Étant devenu insensible, ne marchez pas comme les païens qui sont insensibles. Ça attriste le Saint-Esprit. L'insensibilité, ça attriste le Saint-Esprit. J'ai connu, dans une église, il y a quelques années en arrière, un frère qui est un jour revenu avec un bandage autour de la main, même le bras, Et on voyait que c'était quand même quelque chose d'assez sérieux, alors qu'il n'avait pas l'air d'avoir mal. Et donc, on a commencé à lui poser la question, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a expliqué qu'il était insensible de la main et qu'il avait voulu attraper un objet dans l'eau, mais c'était de l'eau bouillante. Et il ne le savait pas, donc il a laissé longtemps comme ça, il a fait ses affaires. Il ne sentait pas la chaleur ou le froid, il sent rien. Le problème, c'est que la peau, elle a senti le coup, la chaleur. Et ça a brûlé sa main, je ne sais plus à combien de degrés. Et il s'est retrouvé avec un gros bandage. Pourquoi? À cause de l'insensibilité. Ça peut être très dangereux pour les choses physiques comme ça, mais spirituellement, être insensible au Saint-Esprit, combien c'est dangereux. Combien c'est dangereux. Et on pourrait dire dans tout ce qu'on vient de partager que tout ça, c'est imbriqué parce que quelqu'un qui est endurci au fur et à mesure devient de moins en moins sensible au Saint-Esprit. Et il y a un moment donné où c'est fini. À Pharaon, il a dépassé une ligne qui fait que le jugement est tombé sur lui. Mais c'est pas parce qu'on s'est endurci un jour, 2 jours, 3 jours, qu'on ne peut pas crier à Dieu pour qu'il vienne nous libérer, heureusement. Mais ne nous amusons pas avec ces choses-là, c'est trop grave, c'est trop sérieux. Hein, l'insensibilité, c'est tellement dangereux dans le domaine spirituel. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est cette insensibilité où il nous parle, où il nous montre, où il pointe du doigt certaines choses et nous, on tourne la tête. La Bible parle de ceux qui tournent le dos même à Dieu, qui veulent pas entendre, qui raidissent leur nuque, qui sont là et qui veulent faire comme eux, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent. Insensibles au Saint-Esprit. Quand on va chez le docteur, souvent il va commencer à palper un petit peu, chercher quand on fait un examen pour voir s'il y a des douleurs particulières. Et s'il appuie à un endroit et que ça fait mal, soit il appuie trop fort, mais normalement les docteurs ils savent ce qu'ils font. Soit c'est qu'il y a un souci, parce qu'on ne devrait pas avoir mal à cet endroit. Et donc il va nous dire, il faut faire des examens, il faut aller plus loin, etc. Est-ce que le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas dans tous les domaines de notre vie en train de soulever les choses, de toucher, d'interpeller, et puis à certains moments il appuie un peu plus fort parce qu'il voit qu'il y a quelque chose, une douleur qui ne devrait pas être là, ou une mauvaise pensée qui ne devrait pas être là? Est-ce qu'on va lui dire non, c'est le Saint-Esprit, il ne sait pas comment s'y prendre? Je crois que le Saint-Esprit est parfait dans ses actions. L'insensibilité va nous dire non, c'est moi je ne ressens rien, je ne veux rien ressentir, ça ne m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui va vouloir travailler sa communion avec le Seigneur, il va dire moi je veux veiller. Dans la loi, dans Deutéronome, et même dans Josué, on trouve ces expressions, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme. Il y a besoin d'avoir ce soin, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas là pour vous faire la morale ce matin. Je suis là pour attirer votre attention sur les actions bénéfiques du Saint-Esprit. Oui, parfois, il va toucher quelque chose et ça va faire mal sur le coup, mais il est en train de montrer quelque chose qu'il veut soigner. Et là, on doit dire, Seigneur, oui, je veux être sensible. Sensible à ce que tu me dis. Je veux veiller sur mon âme. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est des bonnes exhortations, vous êtes d'accord, hein? Ce que Josué a pu dire à un moment donné. Et ce que le Saint-Esprit nous rappelle ce matin. Voulons-nous être de ceux qui restent insensibles ou voulons-nous être de ceux qui veillent attentivement sur nos âmes? Je crois, oui, qu'en venant fidèlement dans ce lieu, qu'en nous exposant devant la parole de Dieu, en laissant nos cœurs être sondés par le Saint-Esprit, nous réjouissons le Saint-Esprit et nous réjouissons le cœur de Dieu par la même occasion. Mais si nous disons non, ben nous risquons tout ce que nous avons partagé. Ce matin, nous sommes devant ce choix. Ce choix très simple, de dire oui ou de dire non, de réjouir ou d'attrister. Bien sûr qu'on sait ce qui est chrétiennement correct, on sait ce qu'il faut dire quand le pasteur vous pose la question, mais regardons dans notre cœur ce que nous disons vraiment. Seigneur, je veux laisser la rébellion, je veux laisser cette pensée que je maîtrise ma vie dominer. Je vous donne juste cet exemple pour terminer. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Vous avez vu le brouillard qu'il y a en ce moment ? À couper au couteau, quelqu'un m'a dépassé. Je pense qu'il devait être au moins à 110 ou 120. Dans le brouillard, on ne voyait pas qui arrivait en face. Je me suis dit, celui-là, il a la foi, mais pas la bonne foi. Et c'est le genre de personnes qui, s'il arrive un accident, vont s'en prendre à Dieu en disant, voilà, s'il y avait un Dieu, il m'aurait préservé. Sauf que, si l'homme n'était pas son propre Dieu, il n'y aurait pas eu l'accident. Bon, heureusement, il n'y a rien eu, hein, il n'y a rien qui s'est passé, mais j'étais en train de réfléchir à ces choses et me dire, parfois, on a vite fait d'accuser Dieu qui s'y prend mal, et souvent les païens agissent de cette manière-là, mais parfois même les enfants de Dieu le font, en disant, mais peut-être que Dieu n'a pas bien compris, il n'a pas bien saisi. Non, Dieu est parfait, Dieu est saint, son esprit est merveilleusement agissant dans nos vies, son esprit nous parle toujours, nous guide toujours, nous conduit toujours, mais c'est à nous d'être attentifs, d'être soigneusement en train de veiller sur nos âmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Réjouissons-nous déjà que le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Réjouissons-nous. Soyons reconnaissants, rendons grâce à Dieu, parce qu'il nous a donné son Esprit. Éternel, oui, nous te bénissons ce matin. Merci parce que ta parole est précieuse. Elle nous enseigne les choses qui attristent ton Saint-Esprit, mais aussi les choses qui réjouissent ton cœur. Combien nous voulons prêter attention à ta parole. Combien nous voulons que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur. Combien nous voulons pas tomber dans les pièges de l'adversaire qui veut, Seigneur, nous ralentir, qui veut même nous détourner du chemin, qui veut, Seigneur, nous arrêter même parfois. Mais nous voulons être de ceux qui, avec humilité, avec soumission, avec crainte, avec la paix que nous donne ton Saint-Esprit, grandisse. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Merci parce qu'il est là présent dans nos vies, parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il, Seigneur, parce qu'il fait tout ce travail dans notre cœur dont on n'a parfois pas conscience. Merci, Seigneur, parce que tu nous prouves encore ton amour. Tu nous prouves combien nous sommes précieux pour toi. Ô Seigneur, et nous voulons devant toi te dire que nous désirons que tu sois le maître. Nous désirons que ton Saint-Esprit règne dans nos cœurs par la foi. Merci Seigneur de bénir mon frère, de bénir ma sœur dans les circonstances de sa vie qu'il traverse. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse l'assister et que mon frère et ma sœur puissent ouvrir l'oreille, ouvrir les yeux à ce que tu lui montres, à ce que tu lui dis. Ô Seigneur, oui, donne-nous cette sensibilité. Donne-nous d'avoir ces consciences purifiées par le sang de l'agneau et qui ont cette sensibilité à ton Saint-Esprit, qui savent les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas, qui se détournent du mal et qui choisissent le bien, Seigneur. C'est ce que nous désirons. Merci de bénir tous ceux qui sont présents. Encore une fois, nous te remettons ceux qui sont aussi dans leur maison. Que tu les visites là aussi. Ton Saint-Esprit est puissant pour visiter chacun dans sa maison, chacun dans le lieu où il se trouve. Ô Seigneur, quelle grâce! Merci parce que ton Saint-Esprit a la puissance de relever celui qui est fatigué, de guérir celui qui est malade, Seigneur éternel, de donner un élan nouveau à celui qui est lassé peut-être dans sa foi. Tu as la toute puissance ce matin. Ô Seigneur, et nous voulons laisser la liberté au Saint-Esprit de le faire dans ces instants. Merci éternel, que ton nom soit béni et loué. Amen.